Alors, commençons avec un chiffre. Un chiffre assez choc, on peut dire.
Ah oui.
Lequel ?
Celui qui dit que les milliardaires français, ben, ils payent en moyenne seulement 2% d'impôts sur leurs revenus.
2%.
Oui. 2%, alors que la moyenne pour les Français, c'est 6%. Et si on regarde tous les prélèvements, là, l'écart est encore plus dingue. 27% pour les milliardaires contre 50% pour la moyenne.
Ah oui, quand même. Ce sont les chiffres de l'Institut des politiques publiques, ça, si je me souviens bien.
Exactement. Et ça a fait dire à l'économiste Gabriel Zucman, je cite, « La France est bien un paradis fiscal pour milliardaires ».
C'est fort. Hein.
C'est très fort.
Ça pose le décor.
Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va creuser cette question brûlante, la fiscalité des ultra-riches en France.
C'est un débat qui est partout maintenant. Impossible d'y échapper. Et pour ça, on s'appuie sur un dossier très solide d'alternatives économiques. Il est basé sur pas mal d'études, et notamment les travaux d'économistes comme Zucman.
D'accord. L'objectif, c'est simple, hein, essayer de comprendre comment c'est possible, cette situation, et puis voir quelles solutions sont sur la table et quels arguments s'échangent. Alors, le mécanisme clé, celui qui revient tout le temps pour expliquer cette faible imposition, c'est souvent le système des holdings personnels.
Les holdings, expliquez-nous un peu.
Bah, pour faire simple, hein, au lieu de détenir directement les actions de leurs entreprises, qui marchent très bien, les grandes fortunes les mettent dans une société à part, une holding. Cet argent, tout de suite, à son propriétaire, la personne physique.
Ah d'accord, l'argent reste bloqué dans la holding.
Voilà, il reste dans la structure. Il peut être réinvesti, utilisé pour d'autres choses, mais tant qu'il n'est pas versé sur le compte perso du propriétaire, eh bien, pas d'impôt sur le revenu pour lui.
Je vois.
Et ce qui est assez frappant, c'est que ce montage, qui est très courant en Europe et particulièrement en France, mais il est interdit sous cette forme précise aux États-Unis depuis 1937.
1937. Ah oui, ça date pas d'hier.
Non. Donc, ça interroge quand même sur nos propres lois, quoi.
Clairement. Et face à ça, justement, il y a une proposition qui a beaucoup fait couler d'encre. C'est cette idée d'un impôt plancher sur le patrimoine. On l'appelle parfois la taxe Zucman.
Oui, l'impôt minimum sur la fortune, c'est ça. L'idée est assez simple en théorie. Les 0,01% les plus riches, donc ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine,
c'est ça,
devraient payer au total, tous impôts confondus, au moins l'équivalent de 2% de la valeur de leur fortune chaque année.
Le principe du plancher, oui.
Voilà, si ce qu'ils payent déjà est moins que ça, hop, ils doivent verser la différence. Ça concernerait à peu près 4000 personnes en France.
4000 contribuables, oui. C'est un petit nombre.
Tout petit nombre, mais les recettes potentielles, elles, sont estimées entre 15 et 25 milliards d'euros par an. C'est conséquent.
Ah oui, c'est considérable. Bon, le parcours législatif a été agité, hein, adopté à l'Assemblée en 2025, puis retoqué au Sénat. Mais bon, le débat est clairement pas fini.
Non, loin de là. Et forcément, une proposition comme ça, ça suscite des réactions, des objections. L'argument numéro un qu'on entend, c'est le risque d'exil fiscal. Attention, si on les taxe trop, ils vont partir.
Le fameux épouvantail de l'exil fiscal.
Exactement. Sauf que là, il y a une étude très intéressante sur l'expérience de la Suède. Eux, ils avaient un impôt sur la fortune, ils l'ont supprimé, puis analysé ce qui s'était passé avant.
Et alors ?
Ben, elle montre que suite à des hausses d'impôts sur la fortune, le taux de départ était en fait très faible, de l'ordre de 0,1 à 0,2%. C'est minime.
Ah oui, c'est vraiment très peu.
Et autre point intéressant, presque la moitié de ceux qui étaient partis sont revenus dans les 5 ans.
Ah d'accord.
Et l'impact économique global de ces quelques départs, ben, quasi nul. Quasi nul, c'est quand même une donnée forte, ça, face à cet argument qui revient sans cesse. Mais il y a un autre mot qui fait peur, c'est spoliation. On entend ça aussi, ce serait confiscatoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors là aussi, si on regarde les chiffres, les projections, ça calme un peu cet argument. Même avec cette taxe plancher de 2%, le patrimoine des personnes concernées continuerait en fait de croître de manière significative.
Ah bon ? Malgré la taxe ?
Oui, sans doute autour de 5 à 5,5% par an en moyenne, au lieu peut-être des 7% actuels. Si on prend un exemple concret, les 500 plus grosses fortunes françaises. Leur patrimoine total, c'est autour de 1230 milliards d'euros.
Oui, des sommes vertigineuses. Les taxes, elles représenteraient environ 22 milliards sur ce total. Donc il leur resterait plus de 1,200 milliards, qui continueraient de faire des petits.
Vu comme ça, voilà. Difficile dans ces conditions de parler de spoliation au sens où ça viderait leur patrimoine. Et ça amène à un autre point. Est-ce qu'ils auraient l'argent liquide pour payer ?
Oui, la question des liquidités. Mais là aussi, il y a des solutions. Ces personnes ont un accès très facile au crédit, On peut imaginer des échelonnements, ils peuvent vendre une petite partie d'autres actifs. Parfois même un paiement en actions est envisageable.
D'accord. Donc les obstacles techniques sont peut-être moins importants qu'on le dit. Et d'ailleurs, ce débat, il dépasse nos frontières, non ? Il y a une dimension internationale.
Absolument. Et c'est ça qui est assez nouveau et intéressant. Le G20, là, sous présidence brésilienne, s'est engagé à travailler sur une coopération internationale pour que les plus fortunés soient effectivement imposés.
Une sorte de front commun ?
Un peu, oui. Des pays comme la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud soutiennent vraiment la démarche. Et à l'échelle mondiale, on parle de recettes potentielles entre 193 et 242 milliards de dollars par an.
C'est énorme! Ça donne le vertige, surtout quand on pense à la situation sociale actuelle.
Exactement. On voit les files d'attente devant les banques alimentaires qui s'allongent, les services publics qui tirent la langue, et de l'autre côté, ce patrimoine des plus riches qui explose. Plus 1000 milliards d'euros en 10 ans pour les 500 premières fortunes françaises. Le contraste est saisissant.
Oui, et c'est ce contraste qui fait dire à certains élus qu'il est temps de mettre à contribution les hyper-riches. C'est une question de justice sociale, au fond.
Oui, au cœur de tout ça, il y a vraiment une tension. D'un côté, des mécanismes légaux, comme les holdings, qui permettent cette optimisation fiscale très très poussée et qui réduisent l'impôt des plus riches.
Tout à fait légalement.
Légalement, oui. Et de l'autre côté, un principe constitutionnel fondamental, l'égalité devant l'impôt. Et ce principe, de fait, il semble un peu écorné, quoi.
Mis à mal, oui.
Du coup, cette proposition d'impôt plancher, ses défenseurs ne la présentent pas comme une punition, mais plutôt comme un outil pour essayer de réaligner un peu la réalité fiscale avec ce grand principe.
Pour restaurer une forme d'équité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en écoutant tout ça, on a l'impression que les arguments techniques contre cette taxe, ils semblent moins solides quand on regarde les données de près.
Ils sont en tout cas discutables et des solutions techniques semblent exister.
Du coup, la question devient vraiment politique. Un choix de société, en fait. Est-ce qu'on est en train de vivre la fin d'une époque où une immense richesse pouvait aller de pair avec une contribution fiscale proportionnellement si faible ?
C'est une vraie question.
Est-ce qu'on est à un tournant ? Est-ce qu'on va redéfinir ce que c'est qu'une juste contribution au pot commun ? Les prochains débats budgétaires, notamment autour de l'échéance de 2026, seront sans doute cruciaux pour voir si ce changement se concrétise.
On verra bien si l'époque du déni fiscal, comme certains l'appellent, est vraiment révolue. L'avenir nous le dira.